Bon début de semaine à vous tous et ça démarre sur les chapeaux de roue, c'est le cas de le dire. Vous êtes peut-être très nombreux encore dans votre voiture à pester la boucane. Je la vois, la boucane qui sort des oreilles. Hii, pas facile cette rentrée. C'est drôle parce qu'hier, on nous a prévenu dans les bulletins de nouvelles, attention, demain, ça va être l'enfer. Personne nous disait par où passer. Heureusement, nous sommes là. Et vous avez entendu depuis ce matin nos collègues, Marc Brière, entre autres, qui essayaient de vous guider du mieux possible. Nous avons nos collègues également de Radio Circulation 730 qui sont là pour vous, je vous le rappelle. Et puis, bien sûr, nous qui occupons votre matinée. Pendant les deux prochaines heures, on va parler de plusieurs choses. Je vais vous demander, tiens, puisqu'on est en pleine campagne électorale, est-ce que c'est important pour vous que nos politiciens soient bilingues? On a entendu toutes sortes d'horreurs comme accent. Je pense qu'on peut carrément qualifier ça d'horreur. En tout cas, c'est horrifiant pour les oreilles. On a entendu François Legault dernièrement, étonnamment, un peu mal, avoir de la difficulté à trouver ses mots en anglais. Ça nous rappelle l'époque de Pauline Marois, mais il n'y a pas que. Il y en a d'autres qui ont de la misère. Et on pourrait aussi, au même titre, dire que certains politiciens anglophones ont effectivement beaucoup de problèmes à parler de français. Ça vaut dans les deux côtés. Nous allons en parler tout à l'heure et je vous demanderai votre opinion là-dessus. Et puis, parce qu'on vous laisse faire plaisir, puis parce que vers 11h30, on a toujours un petit creux et je sais que vous cherchez toujours qu'est-ce qu'on mange pour le lunch, je vais vous inviter à profiter des 4 prochaines journées pour participer à la semaine du hamburger. Pouvez-vous croire qu'il y a ça, une semaine du hamburger? C'est une initiative que je trouve fabuleuse. Semaine nationale du hamburger. Et je vais vous demander où, d'après vous, mange-t-on le meilleur hamburger du Québec? Au Québec. Oui, mesdames et messieurs, c'est tout un programme. Mais d'abord, on parlait de voiture, on parlait de circulation, retour au travail pour certains après un long congé. Et là, vous commencez à sentir la pression, puis ça n'a pas tardé. Il y a plein de raisons qui font qu'à l'automne, comme ça, il y a parfois des gens qui disent « Ma foi, je ne serais pas capable de recommencer ». Il y a souvent des déclarations de surmenage, de burn-out, comme ça en début de saison automnale, parce que on s'est arrêté un peu, on a réussi à faire un peu le point pendant ces vacances d'été, parce que la saison aussi nous a permis de peut-être aller un peu moins vite que d'habitude. Et là, on se rend compte que la reprise du boulot, l'école, les études, l'entrepreneuriat, tout ça nous épuise, nous fatigue et puis qu'on n'est juste plus capable. Cette pression-là, c'est pas tout le monde qui est capable de vivre avec. Il y en a qui carburent à la pression. Il y a de la bonne pression. Il y a de la pression qui est négative, qui est pas bonne pour la santé. Une chose est sûre, c'est qu'on en subit tous. Je compte sur vous pour me dire, vous, votre niveau là, de pression, à quel est-il? Je vais vous présenter mes invités tout de suite pour en discuter. Martine Hébert est vice-présidente principale à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Merci, Martine, d'être avec nous.
Merci.
Guillaume Desnoyers est chasseur de tête. Il est associé principal chez Desnoyers Ressources et Conseils. Il est conseiller en ressources humaines. Merci d'être là.
Bonjour.
Guillaume. Jessica Joyal est chasseur de tête. Salut, Jessica.
Allô.
La pression, vous en vivez, vous, personnellement, au travail, Jessica? Toi, tu es en affaires, c'est ton entreprise.
Ça. Oui, moi, je suis dans un contexte d'environnement, d'industrie où on parle de pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est sûr que présentement, la demande des entreprises pour trouver du personnel adéquat, là, il est là. Mais ce que je remarque le plus, d'après des gens qui travaillent, on est en retour, là, justement, du congé d'été. Bien, j'ai de plus en plus de courriels de gens qui me disent « Est-ce que vous pouvez m'encadrer dans ma gestion de ma carrière? » Ils ont pris l'été pour réfléchir.
C'est ça, hein?
Mm-hmm. Ils veulent vraiment revoir ce qui se passe. Tu sais, puis de plus en plus, la situation du trafic à Montréal, tu sais, on nous dit tout le temps les travaux qui vont se faire au tunnel, les travaux qui vont se faire à l'échangeur Turcot. Donc, les gens se disent « Regarde,
ça vaut plus la peine.
Non.
Ouais. On va parler du télétravail, ouais, d'ailleurs, demain, pendant toute une heure, en première heure d'émission, parce qu'on pense que c'est vraiment important. C'est bizarre parce qu'en même temps, on s'en parlait avec l'équipe ce matin. J'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'on parle du télétravail. Mais nous en parlerons demain. Ouais. Mais bon, ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est revoir ses priorités. Les gens en sont là parce que la boucane nous sort souvent par les oreilles. Ouais. Guillaume Desnoyers, vous êtes en ressources humaines. Vous le dites, c'est clair que plus ça va, plus notre charge mentale à tous, pas juste aux femmes, les hommes aussi, notre charge mentale est importante.
Ben, le rythme de vie s'accélère, hein. Je veux dire, on a de moins en moins de temps. Je pense que ce matin, c'est un bel exemple de moment où on perd du temps dans des choses qui sont pas tellement agréables. Mais oui, il faut aussi voir que le rythme au travail s'accélère. Je pense que la numérisation des communications, les courriels, les textos, on dirait que les gens aujourd'hui ont pas de break, ont pas la capacité. D'ailleurs, je pense que le gouvernement fédéral est en train de se pencher là-dessus, là, pour avoir le droit
de se déconnecter.
Je pense que à certains, ça va leur faire un grand bien. Mais on parlait tout à l'heure, moi, je suis entrepreneur, c'est une pression que j'ai choisie aussi. C'est pas tout le monde qui a ce loisir-là de choisir ce qu'on fait dans la vie, pour un peu au rythme auquel on le fait, là.
Mais tu sais, le droit de se déconnecter. On a-tu besoin d'un gouvernement pour réglementer ça?
Les lois sont déjà là.
Mais si on est rendu là, il faut croire que c'est un réel problème.
Non, mais tu sais, il n'y a personne qui nous attache pour aller sur Facebook. Il y a eu une panne de Facebook une heure. Pour bien du monde, c'était comme la fin de la vie. Il faut, à un moment donné, calmez-vous.
Pendant les vacances, l'employeur n'a pas le droit non plus d'exiger. C'est ça. Il y a des lois. La loi fait en sorte que l'employeur n'a pas le droit d'exiger de l'employé. Parce que vous l'avez bien dit en début d'émission, il y a la pression que nous, on se met. Il y a la pression qui est réelle, qui est mise des fois par les employeurs, mais il y a la pression aussi que nous, on se met dans nos vies et dans notre travail.
Laquelle est pire?
Je pense que c'est la pression que nous autres, on se met, parce que tu sais, c'est...
Elle a tendance à s'additionner. Alors.
Oui, c'est ça. Parce que c'est de la performance. Puis tu sais, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre comme on a, là, tout le monde présentement a peur aussi de perdre sa job pour qu'on soit remplacé par un meilleur. Je le ressens beaucoup, là. Tu sais, je veux dire, les employeurs, là, ils savent que présentement, ils ont besoin d'embaucher, puis ils veulent avoir quelqu'un à tout prix, puis le meilleur à tout prix. Ouais. Puis je veux dire, présentement, là, je le vois dans leur mentalité, c'est comme, je leur dis, oui, mais les coûts, regarde, on paye, là, on va donner le salaire qu'on a, là, puis quand ça ira moins bien, là, ben, ça sera les...
On changera.
Oui.
Ah ouais, et c'est bizarre parce que dans un compte...
on veut de la performance besoin de faire de la performance, fait que les gens qui sont performants en soi là, ils se la mettent la pression, ils ont pas besoin de personne pour se la mettre, mais ils veulent performer. Puis tu te dis, garde, je donne un coup pour les 5 prochaines années, je vais donner un coup pour les 10 prochaines années. T'sais, les gens là, ils ont cette tendance là à vouloir dire, garde, je le fais pour un bon 10 ans, puis après je vais revenir à un équilibre.
C'est drôle parce que dans un contexte justement de pénurie de main-d'œuvre au Québec, comme on le dit là depuis un moment, on s'attendrait au contraire à ce que ça soit un marché de travailleurs ou le travailleur qui a le luxe de choisir.
C'est ça, c'est le travailleur beaucoup qui décide là dans plusieurs secteurs d'activité. Peut-être les secteurs d'activité, Jessica, dans lesquels tu œuvres.
Tout est surtout tes constructions,
manufacturier, construction.
Moi, j'ai vu des chefs d'entreprise qui nous disent présentement qu'ils gardent des employés là qui sont pas très compétents, mais ils les gardent pareil parce qu'ils en ont tellement besoin.
Au moins, ils ont deux bras.
C'est ça, exact. Au moins, ils ont quelqu'un qui est là. Fait que ça dépend
dans quel domaine ça.
Surtout dans le commerce de détail. La restauration, l'hébergement, c'est des secteurs comme ça là où souvent ils vont les garder parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas de travailleurs pour les remplacer.
On n'est pas dans un marché d'employeurs actuellement, on va se le dire.
Dans
un marché d'employés.
Mais si tu es performant, tu as des compétences, puis on cherche beaucoup le monde technique, on sait que présentement, d'ici 10 ans, il va avoir le tiers de la population qui va quitter le marché du travail. Et de ce tiers-là, c'est 75% va être des postes techniques. Fait que tous ceux présentement qui ont des compétences techniques savent très bien que c'est le marché de l'employé. Mais je veux dire, ils cherchent à se placer les pieds comme il faut, là. Mm-hmm.
Mais bon, il y a toujours quand même c'est vrai qu'il y a toujours un risque de perdre son emploi, hein, même en situation de pénurie de main-d'œuvre. Puis je pense qu'on a intérêt, mais je pense qu'il y a beaucoup au niveau personnel. Moi, je carbure à performance, moi, je carbure à pression, je carbure. C'est comme, je serais pas heureuse dans un emploi où j'aurais pas grand-chose à faire, où ma routine là, serait. Tu sais, quand tu donnes 300 entrevues par année dans les médias, quand tu reçois à peu près 100 courriels par jour, puis que en plus, tu as ta job à temps plein en plus de ça, il faut que tu aimes ça. Puis il y a du monde qui aime ça. Oui. Moi, j'aime ça. J'ai choisi de faire ça parce que j'adore ça. Puis je serais pas bien dans un emploi où ce serait plus tranquille puis que je passerais ma journée à réfléchir. Puis j'enlève rien. Ça en prend du monde pour réfléchir. Là, mais moi, j'ai pas le temps. Je cours.
C'est ça que tu réfléchis aussi. Non,
je réfléchis beaucoup, mais je fais pas juste ça. C'est
On dirait qu'il n'y a pas de milieu. On se parlait il y a quelques semaines, je pense. Manquez-vous de défis au travail? Ouais. On dirait qu'il n'y a pas de juste milieu. On manque de défis. Puis c'est le bore-out qui qui nous guette ou à l'inverse, la pression vient grande, on se met beaucoup de pression. Je pense que je suis d'accord avec vous là-dessus. Il y a la pression que l'employeur nous met, en fait, la pression de faire sa job. Hein. Chacun a quelque chose à produire dans son travail, puis ça peut générer une certaine pression, mais qui devrait être saine. Mais il y a aussi la pression induite qui peut venir d'un milieu de travail un peu difficile. Puis il y a aussi la pression liée à la charge mentale personnelle. Quand on ajoute tout ça, puis qu'on met une belle tempête de neige en plein milieu d'une semaine qui dure 3 jours de déneigement, ben tout le monde en a la pression dans le tapis. Ouais.
C'est sûr que l'employeur a une responsabilité aussi. Il y en a des employeurs qui pressent un peu trop le citron. D'ailleurs, ils se retrouvent avec un gros roulement de personnel. À un moment donné, ils finissent par se rendre compte que c'est pas payant pour l'entreprise non plus. Là. Devoir recruter puis changer tes employés, reformer un nouvel employé, etc., ça coûte de l'argent. À un moment donné, ils finissent par comprendre que c'est pas bon. Puis il y a des attitudes qu'on peut adopter comme employeur aussi qui sont importantes là, à adopter pour s'assurer que la pression sur nos employés aussi, parce que des fois, on s'en rend pas compte. Hein. On peut mettre de la pression, mais sans pas nécessairement de façon là, méchante ou en voulant presser le citron absolument pour de façon indue. Là, on s'en rend juste pas compte. Quand on n'est pas clair, par exemple, la clarté. Ouais. Un employé, là, si, tu sais, quand tu sais pas c'est quoi les attentes de ton boss, comment il veut que tu fasses ça, à quel résultat, dans quelle échéance, ben là, tu peux patiner longtemps. Là. Puis c'est difficile parce que tu sais pas.
Ailleurs, et si ça, c'est ça, le lot probablement de bien des gens parce que dans les petites et moyennes entreprises, pour pas dire les PPME, les petites moyennes entreprises, où tu es 3 dans le bureau ou 4 dans le bureau, là, c'est plus facile de pas être clair. Et puis de faire en sorte que tout le monde a un peu des tâches connexes. Puis c'est qu'un peu tout le monde met la main à la pâte et puis c'est la même pâte. Là.
C'est sûr que des fois, c'est ça, les descriptions
c'est
de tâches sont moins claires.
La description de tâches parce que tu es un peu obligé de faire plusieurs affaires.
Ouais, par contre, la proximité avec le patron, souvent vient pallier à ça dans certains cas.
Ou c'est compliquer les choses parce que tu deviens plus ami.
Mais dans les petites entreprises, il y a un problème réel. Souvent, on parle d'un entrepreneur qui a choisi puis qui carbure au défi, au challenge, au fait d'être en affaires. Puis des fois, ce niveau d'activité-là, il s'induit chez les autres qui le regardent aller puis dit hey, « Moi, faut suivre le beat. Il faut que je sois à ce niveau de performance-là. » Je pense que la clarté, c'est important de dire « C'est pas parce que moi, je m'impose cette pression-là. C'est pas parce que moi, je suis en affaires, qu'il faut que j'impose cette même pression.
C'est ça, mes employés n'ont pas choisi ça.
Exactement. Puis ils n'ont pas choisi le rythme aussi, parfois, d'un cadre supérieur dans une organisation qui choisit de se dédier à sa carrière.
Mais il faut aussi regarder, par exemple, puis je pense que tout le monde, on le vit, là, des fois, dans les organisations, je trouve que les personnes qui ont tendance à être des performants de nature, ils n'ont pas besoin de se faire mettre de la pression par l'employeur, ils se la mettent eux autres mêmes. Par contre, tu as des employés que la capacité d'avoir le niveau d'urgence, là, mettons qu'il n'est pas là. OK? Puis c'est sûr que dans une organisation, tu sais, ça nous arrive tous d'aller à un endroit, puis tu as une caissière, puis là, la ligne, ça rallonge, puis tu te dis, il me semble qu'elle devrait, passer à deuxième vitesse, là, tu sais, pour.
Là, c'est votre pression qui augmente, là.
Oui, c'est ça.
T'sais, mais ça fait en sorte, là, que quelqu'un, justement, qui n'a pas cette capacité-là, là, bien, cette charge de travail-là, là, s'en va sur les autres employés. Mm-hmm. Ça, exact. Souvent, je vois ça. OK? Oui. Là, les autres employés, ils l'assument. Donc, à un moment donné, la pression, elle vient des collègues. Elle vient, oui, des fois, c'est parce qu'il n'y a pas de précision dans le mandat qu'on te donne. Des fois, c'est l'environnement de travail. Puis, tu sais, les employeurs, il faut qu'ils comprennent très bien qu'un roulement de personnel, là, ça n'a rien de payant pour eux.
Ça coûte
parce
cher.
Parce que un roulement de personnel, ça veut dire qu'après, tu as un problème de recruter. Ouais. Après, ton branding comme entreprise, ton image employeur est affectée. Moi, je le vois, là, on me demande de faire des miracles en recrutement. Là. Puis des fois, là, je me dis, on va se rasseoir parce qu'il y a des choses qui se sont passées à l'interne. Peut-être que c'est justifié, mais là, ça crée un problème. Tu sais, tu as un problème d'image employeur, tu as un problème de roulement de personnel.
Sur les autres aussi.
Il n'y a pas personne qui est gagnant là-dedans. Donc, mais je pense qu'avec la mondialisation, avec l'arrivée de la numérisation, c'est évident qu'on doit, les entreprises, puis avec en pénurie de main-d'œuvre, on exige beaucoup des gens. Effectivement,
il y a des milieux toxiques avec des gens qui sont toxiques, que ce soit des travailleurs eux-mêmes ou des patrons, d'ailleurs, qui
pas abusent. De reconnaissance, jamais, là.
C'est ça. Ouais. Heureusement, c'est pas la majorité, mais effectivement.
Mais ça peut faire beaucoup de dommages.
Ça peut faire du dommage.
Et ça fait drôlement augmenter la pression au travail sur les autres. On va s'arrêter ici. Je vais demander à nos auditeurs s'ils en subissent une trop grande pression au travail. Dites-nous un peu comment vous vivez ça, si vous la vivez. Est-ce que vous avez des trucs aussi, ceux qui arrivent à contrôler cette pression? Qu'est-ce que vous faites pour la contrôler? On va s'échanger nos trucs comme ça ce matin. 514-790-9850. Et vous pouvez, bien sûr, nous joindre sans frais partout au Québec en faisant le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Je vous redonne nos numéros pour nous joindre. Je sens que vous avez tellement de pression que vous dites, hey, elle avec sa pression, là. Non, mais justement, prenez le temps de nous appeler. Vous allez voir, ça fait le plus grand bien que de se libérer de ça. Je sais que vous êtes pris dans la circulation, que vous avez les deux mains sur le volant, puis que vous pestez, puis que vous vous dites, oh mon Dieu, quelle journée qui commence mal, quelle semaine d'enfer on va avoir.
Ceux qui n'ont pas le temps d'aller chez le psy, appelez Isabelle.
Oui, appelez-moi, exactement. Guillaume Desnoyers est avec nous. Il est conseiller en ressources humaines, chasseur de tête. Jessica Joyal est avec nous. Bien sûr, Martine Hébert, vice-présidente principale à la FCEI, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Nos numéros, 514-790-9850 et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. Vous me dites si vous subissez une forte pression au travail, une trop grande pression même, si ça vous amène d'ailleurs à dire, bon là, qu'est-ce que je fais avec cette pression-là? Parce que, bon, des fois, quand on ressent trop de pression, est-ce que ça voudrait peut-être pas dire qu'on est peut-être pas à la bonne place, Martine?
Ben, exact, c'est ça. Des fois, effectivement, moi, j'ai remarqué que dans certains cas, c'est parce qu'il y a un mauvais casting à la base. Hein. T'es peut-être pas dans le bon poste. C'est sûr que si tu veux pas dealer avec des changements de dernière minute, dealer avec de la pression, là, travailler sous pression, ben tu t'en vas peut-être pas en communication ou dans une branche comme ça. Là. T'sais, t'es peut-être mieux de penser à d'autres choses, devenir, je sais pas moi, un chercheur ou... aller travailler
dans aux usagers techniques au téléphone. Tu sais que tu vas recevoir bien des appels si tu n'es pas capable de gérer ça.
Parler au téléphone, oui.
Si tu n'aimes pas ça, parler avec le monde, ça va pas là-dedans.
Quand il t'appelle, il est en urgence, il faut aussi que tu aies un rythme de c'est montrer ça. Que tu prends son problème vite.
Si tu ne veux pas travailler fin de semaine puis le soir, tu n'envoies pas policier ou pompier. Là.
Ou infirmière, surtout.
C'est comme « if you can't stand the heat, get out of the kitchen ». Je veux dire, si tu n'enlèves pas la chaleur, sors de la cuisine. Je pense que c'est vrai pour bien des
toi,
types de postes.
Tu pourrais être bon pour notre deuxième sujet, Guillaume.
Lequel? Les hamburgers?
Non, les politiciens et l'anglais. mais c'est vrai que, bon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on n'est pas à la bonne place, qu'est-ce qu'on fait? Facile peut-être de dire, bon là, il faut que je change, mais c'est pas
c'est
si
difficile.
Évident
c'est
à faire.
Très difficile.
Puis l'employeur a une responsabilité là-dedans aussi. Parce que de garder un employé que tu sais qu'il n'est pas à bonne place, que tu sais que tout ce que tu vas faire, c'est de créer de l'insatisfaction, puis gérer, tu vas être obligé de gérer la performance, de le suivre à la trace, etc.
Pour adresser cette question-là. Mais ils s'en aperçoivent même pas, les employeurs.
Non, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Il y a des employeurs qui le savent, puis mais tu as la responsabilité de le gérer.
Toi, tu dis juste que les employeurs s'en rendent pas compte.
Moi, je trouve qu'ils s'en rendent carrément pas compte. Dans leur tourbillon, là, ils se rendent pas compte qu'ils n'ont pas la bonne personne à la bonne place. Ça prend des fois quelque chose là, de dramatique dans l'organisation pour dire, ben instant, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas... Tu sais, les entreprises, là, on parle des petites entreprises, là, tu sais, qui vont faire des évaluations, d'évaluation de rendement ou de compétences, voir leur, ils n'en font pas de ça.
Non.
Avant de
ils n'ont pas le temps.
Il faut les outiller.
Ça vient trop vite. Ouais. Demain arrive trop vite.
Ben il faut les outiller.
Mais c'est tellement vrai qu'en entrevue, Isabelle, là, ça m'arrive souvent d'avoir des cadres avant de moi puis de comprendre qu'à certains moments dans leur carrière, ils sont faits congédiés. Mais la question que j'ai souvent, c'est pas pourquoi il s'est fait congédier, c'est qu'est-ce qu'il faisait là. OK? Très souvent là, on finit par congédier des gens là parce qu'on a mal évalué nos besoins et on a aussi mal évalué les compétences des gens puis on se retrouve avec un mismatch. Bon, on s'en rend pas compte tout de suite, puis c'est l'individu qui finit par porter le chapeau. Ouais. Fait que dans une carrière d'un cadre là, se faire congédier, c'est quelque chose qui arrive. Puis oui, on parlait de pression là, c'est ne pas être dans la bonne chaise, c'est énormément de pression pour quelqu'un parce que cette personne-là a le sentiment de pas être capable de réussir. Puis en plus, souvent la relation avec l'employeur se détériore.
Ouais. Mais il y en a qui t'ont 20 ans dans des positions comme ça là.
Ouais. Puis tes collègues de travail te voient pas vraiment de la bonne manière, parce qu'à quelque part, personne n'a statué ou de dit, garde, c'est pas ça que je voudrais faire, c'est pas là que sont mes compétences, mais on le voit pas, ça, dans les petites organisations. C'est bien dur de leur apporter ça.
Des fois, les gens ont des menottes dorées.
Oui, ça, c'est un bon point, ça. Il y a Stéphane qui m'écrit, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre au Québec. Il y a une pénurie de cheap labor. monte pas cher.
C'est-à-dire que, ouais. C'est-à-dire qu'il y a raison de dire qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs, là, où la rémunération est bon traditionnellement, bon. Puis structurellement parlant, inférieure à ce que vous retrouvez dans les mines ou dans le secteur financier, là. Je veux dire, il y a des limites à ce que tu peux payer quelqu'un dans un petit commerce, ouais. Dans une petite boulangerie. Ouais. Tu peux pas payer ton monde 100 000 par année, là.
C'est sûr.
Fait que, il y a une pénurie. Et on est un petit peu victime de notre succès au Québec. C'est-à-dire qu'on a beaucoup poussé pour la scolarité et mm-hmm. on est une population de plus en plus scolarisée. Nos jeunes ont quitté les régions et notre population est vieillissante, etc., etc. Donc, ce qui fait en sorte que ces postes-là qui étaient autrefois occupés soit par des jeunes, par exemple, dans les régions, dans le secteur du commerce de détail, dans la restauration, dans l'hébergement, bien, il n'y a plus personne pour les occuper.
Et je retiens ce que Jessica Joyal disait tout à l'heure. Dans combien d'années, tu dis, des prochains 10 ans, il y a un tiers des...
Un tiers de la population qui travaille, qui va quitter. Puis il y a 75 % de ce tiers-là, c'est des emplois techniques.
Fait qu'il faudrait arrêter de pousser nos jeunes vers l'université.
Ben, oui. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut valoriser aussi les métiers professionnels et techniques.
Oui,
et
ça, les prothésistes, les radios, c'est ouais. ça.
On le fait pas assez parce que, au lieu qu'un jeune décroche, là, pourquoi faire qu'on y ferait pas valoir que, justement, il pourrait avoir une fichu de bonne job.
Avec une méchante bonne paye.
Avec une très bonne paye.
Un soudeur, ça gagne très, très bien sa vie au Québec.
Soudeur, prothésiste. Prothésistes, les audio-prothésistes.
Oui, oui. Écoutez, il y en a dans tous les domaines. Oui. Dans le secteur
manufacturier. Dans le médical, dans le manufacturier.
Oui. Hygiéniste dentaire, technicienne dentaire, technicienne juridique. Beaucoup de postes techniques. 75 % ça va être des postes techniques à combler.
Nous autres, nos données démontrent très bien.
Les clientèles, je ne sais pas si vous avez vu ça, la semaine dernière, c'est sorti. Les chiffres au cégep. Donc, où est-ce qu'on va
chercher
s'éduquer?
Oui.
C'est au cégep. Si tu veux une job technique, c'est technique, c'est au cégep.
Oui.
Ça baisse. Les inscriptions baissent.
Il y a un effet démographique. Là, la cohorte qui rentre au cégep actuellement, 2000, là, c'est la plus petite cohorte de naissance là, de l'histoire du Québec. Là. Fait que les cégeps baissent actuellement, là, c'est, malheureusement, c'est un peu normal. Mais en termes de quantité de jeunes, là. Mais de toute façon...
Je pense qu'il y a un intérêt aussi.
Il y a un intérêt, puis je pense que c'est une question de valorisation, comme on disait tout à l'heure.
Il y a un gros décrochage au secondaire.
On valorise beaucoup l'université, puis même on...
Ça fait peur aux jeunes.
On choisit des fois nos immigrants en fonction de diplôme universitaire.
Ouais.
Puis je veux dire, je pense à la joke du chauffeur de taxi.
On parlait de mauvais casting, c'est la plus grosse joke.
On fait venir
du monde ici. Nos immigrants sont surqualifiés. On fait venir du monde avec des baccalauréats en sociologie de l'université. De je sais pas quoi, puis on n'a pas, c'est pas de ça qu'on a besoin, alors que dans les PME du Québec, partout...
Le mythe du médecin qui se retrouve chauffeur de taxi,
ils ont tous des maîtrises. On n'a pas de poste pour eux.
Des maîtrises en quoi?
Maîtrise en architecture, maîtrise en...
En sciences politiques.
En enseignement.
La grille de sélection des immigrants du Québec, là, tu as un plus fort pointage si tu parles français, évidemment. Puis le deuxième, c'est la formation.
La diplomation.
Fait que ces deux facteurs-là font en sorte qu'on a accueilli une immigration au fil des ans qui est extrêmement scolarisée. Qui avait des.
Puis ont des attentes, les autres.
Oui, bien, je comprends donc. Puis ils sont déçus, leurs attentes, puis ils ont raison.
Quand t'es immigrant, je veux dire, on parle de la pression, là, ce matin.
Ouais,
t'en
c'est
as
ça.
De la pression.
Ben, c'est ça.
Alors que les jobs vite.
Oui. Alors que les postes qu'on a de disponibles, là, c'est des postes de journaliers dans nos usines.
Oui.
C'est des postes dans nos restaurants de chefs cuisiniers. C'est des postes dans nos hôtels de personnel à l'accueil, tout ça, pour accueillir les clients, etc. C'est ça. Il y a 110 000 postes au moment où on se parle à pourvoir au Québec dans les entreprises.
Beaucoup en région.
110 000?
110 000.
Qui trouve
pas région, preneur.
Dans les régions ressources, là, où est-ce qu'il y a des jobs dans les mines, imaginez les restaurateurs puis les hôteliers.
Ils sont obligés de fermer.
Ils ont de la misère à
c'est effrayant ce qu'ils vivent présentement. Puis tu sais, pourtant, la commission de la santé là, du Canada là, dit qu'il y a 500 000 personnes par semaine qui manquent de travail pour des raisons de maladie mentale.
Ouais. Ah ouais, mais ça, c'est...
Fait que là, on a du monde qui sont en congé de maladie, on est en besoin de main-d'œuvre. Puis tu sais, je veux dire, moi, des fois, il y a des employeurs qui me disent j'ai besoin pour remplacer un congé, mais tu sais, déplacer quelqu'un dans une organisation pour l'amener pour un remplacement de congé de maladie qu'on sait indéterminé, tu feras pas. Il n'y a pas personne qui va bouger pour ces raisons-là. Tu vas dire, mais oui, mais d'un coup, que la personne revient après 6 mois,
je ne
quitterai pas ma job, moi, pour. Même si c'est tentant, le poste.
Donc, tu veux dire que c'est des postes impossibles à combler, là, ça.
Ben,
ou à peu près, là.
C'est sûr qu'en pénurie de main-d'œuvre,
il faut capitaliser là-dessus.
Avant d'aller à la pause, je vais parler à Alain. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour.
Est-ce que vous ressentez de la pression au travail?
Oui. Je travaille dans le milieu manufacturier. Je travaille dans le niveau de la soudure. Mm-hmm. Et puis, oui, on subit beaucoup de pression. Et puis, on est en ce moment, tout le monde en pénurie. Tout le monde est en pénurie à ce niveau-là de main-d'œuvre. Mais on a beaucoup de pression aussi pour le salaire qu'on nous donne aussi. Je veux dire, c'est un milieu aussi qu'on a connaître notre santé. On respire des trucs qui intéressent notre système. Et puis, en tout cas, je sais pas si on pourrait retrouver l'article, mais il y a un article qui parlait, il y a un monsieur qui tenait une petite compagnie de soudure, et puis il disait que ses employés étaient payés en moyenne 28 $, qui n'est pas le cas dans le milieu, et puis il disait qu'il trouvait ça aberrant qu'il y a des grosses compagnies qui font des millions, que lui, il vivait très bien avec quelques employés, en est bien les payant. On est là aujourd'hui, puis je peux comprendre des jeunes qui veulent pas, qui sont de moins en moins motivés. Il y a des gens, beaucoup de jeunes sont avec leur tablette, leur DS, leur console de jeu, et puis ils sont pas intéressés à ces trucs-là aussi, là, au niveau de la main-d'œuvre, les trucs manuels. Ouais. J'ai des enfants, puis je le vois, fait que qui manque de main-d'œuvre au niveau des métiers, c'est tout simplement normal. Quand je vois ça aujourd'hui, on paye pas plus. Taux horaire augmente au salaire minimum. Nous, on est resté des années au même taux. Oui, on subit de la pression de production.
Combien vous gagnez, vous, par exemple, Alain?
Je suis à 26 $ d'heure.
26, oui. Après ouais, combien?
Et puis, ça fait après 20 ans de métier. Je veux dire, et puis, je fais plusieurs choses. Je fais pas juste souder. Je veux dire, je suis dans plusieurs facettes du métier. Je veux dire, je fais un peu les métiers de tout le monde là-bas. Et puis, quand on vient pour augmenter des augmentations, si ça se fait qu'on a été voir ailleurs, c'est là qu'on nous augmente, parce que sinon, on trouve ça ridicule. Des années qu'on attend, et puis la journée que les gens savent qu'on était passé en entrepreneur, c'est là que le taux horaire augmente, puis on nous rend compte qu'on veut nous garder. Mais juste par respect de nous garder...
Remarquer, c'est un truc. C'est un beau truc à
donner. Oui, c'est dommage.
Il faut se questionner sur son employeur dans ce genre de situation.
Oui, c'est ça. Parce qu'à quelque part, là, moi, présentement, là, j'en vois beaucoup, là, où que je suis à la fin du mandat, puis on est en train de négocier le contrat, là, puis tu sais, à ce temps, on est obligé de dire, je suis obligé de les mettre en situation. Il va arriver quoi quand tu vas dire à ton employeur que tu démissionnes? Là, présentement, là, quasiment deux fois... Je te dirais, la moitié du temps, l'employeur va aller à la surenchère, puis il va lui donner ce qu'il veut. Ouais. C'était pas comme ça avant. Maintenant, ils le font, mais je dis tout le temps aux employés, c'est pas une bonne chose, hein, parce que ça, là, c'est une relation qui va durer peut-être 6 mois. Mm-hmm. Parce que l'employeur, il sait que tu es allé voir ailleurs. Là, il est mal pris. Il te donne ce que tu veux. Il va être exigeant. Puis à un moment donné, tu vas en payer le prix. Ouais. Mais présentement,
il y a une perte de confiance dans ce genre de situation-là.
Ouais. C'est ce que les gens font.
Avez-vous essayé celle-là, Alain? Vous-même?
De quoi?
Ben
d'aller
voir ailleurs, comment qu'on vous offrirait?
Ah, ben moi, je l'ai fait, et puis moi, c'est la chose qu'on m'avait dit de faire, la seule chose ici de manière d'avoir une augmentation, c'est que je lui dis à la personne qui était à peu près la plus grande crabe de la place. j'ai même pas eu besoin de m'y rendre. Je savais éperdument qu'il m'aimait pas. Fait que on va voir si essaie de mettre des bâtons dans les roues, mais. Fait qu'effectivement, c'était juste avant Noël, puis je lui ai dit que je souhaitais joyeux Noël, puis j'ai dit, tu viens de m'aider sans le vouloir.
Fait que, mais avez-vous eu votre augmentation?
Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu, mais je trouve ça plate qu'on en soit rendu là. Ouais. Les gens savent que ce qu'on vaut. Il y a plein de monde qui demande. Il y a plein de jeunes qui arrivent dans le métier, puis qui vont voir ailleurs. Ils n'ont pas d'appartenance. C'est ça le problème aussi des compagnies, des moyennes, des petites entreprises. C'est que l'appartenance n'est pas là. Fait que les gens vont voir ailleurs. Les employés vont voir ailleurs.
Merci beaucoup, Alain. Merci bien.
Nos données indiquent, par exemple, que des situations comme ça, là, c'est quand même un peu plus marginal dans le sens où la plupart des... En tout cas, ce que nos statistiques démontrent, on a demandé aux chefs de PME, qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de garder vos employés puis augmenter les salaires? Là, ça vient de parmi le top 3 des choses que les employeurs ont fait pour essayer d'attirer puis retenir leurs travailleurs. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas tous les employeurs qui attendent d'être acculés au pied du mur pour augmenter le monde. Au contraire, ils savent très bien là, que s'ils ne donnent pas des bonnes conditions...
Ils vont les perdre.
Ils vont les perdre, c'est ça, puis ils ne veulent pas les perdre. Puis je comprends, il y a certains métiers, ce qu'il disait Alain, qui vivait comme soudeur de la pression, c'est
pas
sûr
glamour,
que...
Hein?
C'est sûr que quand tu es dans une industrie puis qu'il manque de travailleurs, ben c'est sûr que la job, il faut qu'elle sorte pareil, là, parce que les commandes des clients, il faut qu'ils sortent. Puis
c'est difficile.
C'est très difficile. Et c'est là où l'employeur aussi a une responsabilité.
Je pense qu'il parlait beaucoup de reconnaissance, j'entendais dans son tweet. C'est beaucoup ça. Là. On va s'arrêter ici, si vous voulez bien. On revient tout de suite après la pause. Je vais encourager les gens à nous faire part de ce qu'ils vivent au travail. C'est la rentrée. C'est difficile ce matin, plus que jamais, sur nos routes. On est en votre compagnie et puis puis on vous permet d'évacuer un peu de cette pression que vous pouvez ressentir ce matin. 514-790-9850. Vous pouvez nous joindre sans frais en faisant le 1-866-790-9850. Dites-moi comment vous vous sentez. À tout de suite, tout le monde.
Il faut que ça couvre les dépenses.
Est-ce que vous arrivez à décrocher parfois? Ben oui, on aurait pu poser cette question-là parce qu'avec la trop grande pression, souvent on se dit ça, mon Dieu, on est-tu capable de décrocher? Mélanie, bonjour. En vivez-vous une pression importante au travail?
Oui, bonjour. Effectivement, je travaille dans les TI, moi. On est une petite PME qui aide nos clients en TI. Puis écoutez, la pression, je la vis à tous les jours. J'ai des clients qui m'appellent... désespérés parce qu'ils cherchent des ressources, ils cherchent du personnel. On n'en a pas à Montréal, pour vrai. On est en grande pénurie en informatique. Puis ouais. Malheureusement, les jeunes ne s'en vont pas dans ce domaine-là. Ils vont aller dans le domaine des jeux vidéo.
Ouais.
Mais quand on parle de réparer un ordinateur, que ça soit aussi simple que ça, c'est grave. Là, on est en grande demande. Puis moi, mon entreprise, on doit aller recruter à l'international. Puis heureusement, on a des bonnes personnes à l'international. C'est malheureux pour le Québec, mais on en est rendu là. On n'a pas le choix d'aller recruter en Europe. On est en mission virtuelle en ce moment avec Montréal International, Québec International, parce que j'ai des clients qui m'appellent en grande demande. Puis la pression, je la subis à tous les jours depuis plusieurs années.
Ah,
donc, en TI, c'est grave. Puis c'est un.
En technologie de l'information, hein, c'est ça que vous voulez dire. Ouais.
Oui, c'est ça. En TI, puis. T'sais, moi, j'ai une pression parce que je veux satisfaire les besoins de mes clients, mais au bout du compte, quand on a 52 postes d'affichés en ce moment pour juste mon entreprise à moi pour aider mes clients, puis je vous le dis, là, si je suis capable d'en combler deux cette semaine, ça va être beau, là.
Qu'est-ce que vous cherchez exactement?
Écoutez, on cherche des programmeurs dans différentes technologies, on cherche des gestionnaires en technologie, on cherche des gens qui font du support bureautique, on cherche des, nommez-les là, des analystes d'affaires, c'est tous c'est une grande pénurie. On a un gros client à Montréal, pour pas le nommer, là, qui a besoin en ce moment de 26 candidats. Puis je vous le dis, on est trois firmes à Montréal, on a fait trouver ces 26 candidats-là, puis on n'est pas capable, on n'en trouve pas. Donc là, maintenant.
C'est qui?
Moi,
c'est CGI?
Ce
c'est qui?
Non, c'est Hydro-Québec.
Hydro-Québec?
Hydro-Québec. Ouais. Hydro-Québec cherche à combler ça, c'est juste pour le mois en ce moment là, en consultation. Puis je vous dis, on est trois firmes à Montréal qui travaillons là-dessus. Puis là, en ce moment, je suis allée plus loin. Je vais embaucher en Espagne, à Paris, des gens qui parlent le français très bien, qui sont pas obligés de parler l'anglais. Je leur fais une proposition, je paye tout pour qu'ils viennent ici. Ils arrivent ici en 3-4 mois, mais là je le sais que dans 3-4 mois, je vais être encore en pénurie, donc ça vaut la peine pour moi d'embaucher 5-7 personnes à l'avance, puis c'est ce que mes compétiteurs font aussi. Donc, c'est un grave problème, puis je ne sais pas à quel point les gouvernements s'en rendent compte.
Et Mélanie, quand vous trouvez comme ça quelqu'un, la perle rare, là, disons, là, est-ce que c'est facile pour vous, justement, de lui dire, ben viens, on va vous obtenir un permis de travail, venez, puis dans 3-4 mois, il peut être ici?
Oui. Je vous dirais que pour l'avoir vécu plusieurs missions,
c'est
là,
c'est rapide, ça. C'est parce qu'ils sont très qualifiés.
Ben, 4 mois, c'est ça. Ben, on fait des travailleurs très qualifiés, mais on a aussi des une nouvelle qui appelle ça pénurie là, de main-d'œuvre là, avec le gouvernement, qui fait qu'en dedans 3 mois, bien sûr, si leurs passeports aux gens là-bas sont à jour, etc. Là,
ouais.
Mais je vous dirais que je n'ai embauché un en mai, puis il arrive en septembre. Là.
Wow.
Ça fait 5 mois. Mais je vous dirais que pour eux, les Parisiens, c'est leur rêve américain en format canadien.
C'est
ils nous le disent. Là. Mm-hmm. Donc, j'en ai dans mon entreprise là, sur peut-être 150 employés, je dois avoir au minimum 80. La moitié, c'est des Parisiens, des Européens.
Ouais, c'est les Français. Les Français rêvent du Québec. Là. Ils adorent ça, venir ici.
L'aéronautique, ils font la même chose avec les Français.
Ouais.
Ils les prennent pour ici, on la transfère après au Mexique.
Ah ouais.
Ouais, y a des entreprises de recrutement en aéronautique qui ne font que ça. Ils prennent les Français.
C'est des gens très travaillants.
Mm.
C'est des gens très travaillants. C'est des gens qui n'ont pas peur de travailler, que ce soit des Parisiens, des Européens. Ils sont habitués de travailler 50 heures semaine. Mm.
Alors que est-ce que les Québécois ont comme perdu ça un peu, le goût du travail, vous diriez?
Oh, tellement. Moi, je le vois, la différence, là. Je vois, j'ai 70 employés qui travaillent pour moi, là. Sur les 70, je dirais, j'en ai peut-être 25 qui viennent d'un autre pays. J'ai jamais de plainte de mes clients venant de ces 25 personnes-là versus des Québécois qui se sont pas présentés au bureau, qui ont trouvé un autre emploi ailleurs. Puis tu sais, je les paie, là, mes gens que je fais venir de l'externe, là, je les paie au salaire qu'une personne ici du Québec serait payée. Je les soupais pas. Souvent, les gens pensent ça, mais je les paie le même salaire, surtout que la personne arrive ici avec un bac, change de vie complètement. Elle amène sa famille ici. Je peux pas la payer 10 000 en bas d'une autre personne. Mm-hmm. Il va se servir de bande, il va se trouver un autre contrat ailleurs.
Mais donc, sur la question de la pression, Mélanie, est-ce que vous trouvez que les Québécois ont tendance à se plaindre vite de subir une trop grande pression? Est-ce qu'on est...
On est facile.
On est chiolé un peu, puis on veut pas trop travailler, puis on...
Mais on commence
non, à... Non, moi, j'aime ça, parce qu'on dit les vraies affaires.
Non, mais
là,
moi, je commence à... Ce qu'elle a dit présentement au TI, là, moi, dans la construction, là, ce que j'entends des employeurs, là, c'est des fois, c'est « Trouve-moi des Roumains, trouve-moi des Polonais. »
Ils sont pas fatigués, c'est ça?
C'est ça. Ils sont travaillants, ils chiolent pas. Fait que dans toutes les industries, là, on entend des discours comme ça de plus en plus. Ben, fait que, à quelque part,
ça dit quelque chose sur nous, ça.
Oui, certainement. Absolument. L'éthique du travail a changé. Oui. Ça, c'est clair. Puis la place du travail dans la vie, ça a changé au Québec. Puis c'est vrai qu'on entend de beaucoup d'employeurs de dire « Colin, c'est donc pas pareil comme avant. » Puis il faut qu'on s'ajuste parce que comme employeurs, ils n'ont pas le choix là, s'ils ne s'ajustent pas.
Et Mélanie, vous êtes toujours là. Avez-vous des jeunes aussi, des jeunes Québécois chez vous? Est-ce que vous remarquez que on dit souvent que ce sont les jeunes qui amènent cette nouvelle façon, qualité de vie d'abord, je prendrai pas n'importe quoi parce que ça vient de mon boss. Est-ce que c'est effectivement le cas dans votre en TI? Là, est-ce que les jeunes vont donner un rythme différent? Ou vous diriez qu'en général, le Québécois, il travaille moins que celui qui vient d'ailleurs?
En fait, les jeunes en TI, moi, j'en fais partie, là. Il faut leur donner une latitude et une flexibilité dans leur travail, surtout en programmation. Les programmeurs vont arriver à 9h30, 10h le matin, mais ils vont finir à 7-8h le soir. C'est normal. Faut que les employeurs qui ont 60 ans, qui n'ont pas connu ça, acceptent ça.
Il y a un changement
maintenant important.
C'est ça. C'est pas parce que t'arrives à 7h moins quart au bureau que t'es meilleur puis tu travailles plus.
Non. C'est ça.
Des fois, c'est du présentéisme.
Moi, quand j'ai commencé, je l'ai dit à mon employeur, mon équilibre travail-famille est super important. Par contre, oui, j'arrive peut-être à 9h le matin au bureau, je finis à 5h30 le soir, mais je me rebranche quand les enfants sont couchés à 8h30. C'est pas anormal que j'envoie des courriels à 9h30, 10h le soir.
C'est ça.
Donc, au bout du compte, mon travail est fait quand même, mais s'ils ne me donnent pas cette latitude-là, je vais aller voir ailleurs. J'ai besoin d'avoir une flexibilité, puis je donne autant que quelqu'un qui rentre à 7h puis qui finit à 5h.
Ah, j'en doute pas, vous avez une voix énergique qui est énergisante.
Mais c'est ça, les employeurs, ils doivent gérer des résultats maintenant. Ils ne doivent pas gérer par rapport au nombre d'heures qu'une personne passe au bureau. Mm-hmm. C'est à résultat. C'est comme ça qu'on va réussir au Québec.
Avec la flexibilité que les travailleurs recherchent, parce que la nouvelle génération, là, c'est flexibilité, flexibilité, flexibilité.
Ouais. Oui. Mélanie, merci beaucoup. On vous a tenu longtemps.
Ça fait plaisir.
Merci beaucoup. Merci de votre appel. On s'arrête ici. On poursuit tout de suite après la pause.
La Grèce antique.
On parle à Pierre. Bonjour. Est-ce que vous subissez de la pression au travail, Pierre?
J'ai subi. J'avais un directeur qui me disait, moi, je vais jamais te licencier, mais je vais te poser les outils sur la table pour pouvoir te suicider.
Oh, mon
C'était
Dieu.
Clair et net. Et ça m'a marqué comme truc.
Ben là, ça, c'est ce qu'on appelle un employeur toxique.
C'est du cynisme. Donc, oui, mais j'écoutais la personne précédente, effectivement, ben, vous entendez que moi, je suis du Lac-Saint-Jean, là. Non, ça fait 17 ans que je suis au Québec, là-dessus, et j'ai vu un changement assez phénoménal sur l'approche au niveau de l'emploi. Mm-hmm. Je ne vais pas utiliser le terme travail, parce que je ne veux pas faire... ça a une autre signification là-dessus, hein, c'est souffrance et contrainte. Il n'y a qu'à voir l'étymologie de ce mot. Je vous laisse regarder ça dans les dictionnaires.
Mais ce que vous avez remarqué, c'est qu'il y a plus de pression aujourd'hui qu'il y en avait il y a 17 ans.
Il y a de la pression là-dessus. Et il y a de la pression, je vais dire, pas simplement au niveau d'un employeur par rapport à un employé, puisqu'on est en train de dénigrer largement les syndicats qui sont un moyen de parler de l'employeur à les collaborateurs ou les employés. Mais par contre, une fois qu'on a éliminé le syndicat, on se retrouve à l'employé contre la grosse pression, celui qui tient le gros bout du bâton, l'employeur.
Merci beaucoup. Marie-Josée, votre avis là-dessus?
Disons que moi, je suis un employeur, j'ai un petit commerce en alimentation.
Ouais.
J'engage beaucoup de jeunes. Et je dois te dire que la pression n'est pas sur les employés, mais sur les employeurs.
Oui, elle a bien raison.
C'est l'enfer de voir là comment que les jeunes ne sont pas travaillants, ils ne sont pas responsables, ils ne rentrent pas travailler pour un oui ou un non, ils sont pas à l'ouvrage. J'ai des employés, moi, que ça fait plus de 15 ans qu'ils sont chez moi. La semaine passée, une elle me dit carrément, je lui disais quoi faire, elle m'a dit de me fermer à gueule, que là, après mes vacances, puis ça y tentait pas ce matin-là de m'entendre, là, tu sais, là.
Mais voyons donc! Et qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'est-ce qu'on répond, Marie-Josée, quand ton employé te dit, elle vous a dit ça, là, vraiment?
Savez-vous, oui. Je me suis retournée la langue plusieurs fois. J'ai sorti du département. Et j'étais en vacances depuis ce temps-là parce que je pensais de la noyer dans la sauce à spaghetti. Tout l'été, moi, j'ai pas eu de vacances. J'ai eu 4 jours de vacances parce que pendant que j'avais planifié mes vacances, elle a décidé qu'elle prenait ses vacances à ce moment-là. Là, à la fête du travail, j'ai dit, on va se prendre une longue fin de semaine. Elle avait décidé qu'elle rentrait pas le vendredi, le samedi, le dimanche et lundi.
Vous avez-tu avisé?
Elle l'avait dit à mon fils.
Ah, OK. Parce que souvent, il n'avise pas.
Parce qu'elle va se reconnaître, par exemple.
Ouais. Fait que donc, la pression, les employeurs aussi la ressentent. Mais c'est quand même fascinant.
Des choses qu'on entend régulièrement de la part des petites entreprises là, qui disent, regarde, mon employé, ça fait 2 jours qu'il ne rentre pas, il ne m'a pas appelé, je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait.
Junior est avec nous, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
En fait, moi, c'est pour dire... ça a changé aujourd'hui. Il faut prendre ça en considération. On n'est plus il y a 50 ans. Moi, par exemple, là, je travaille dans la construction. Puis j'ai la tâche d'être aussi un père. Des employeurs qui cherchent du monde, qui peuvent faire des heures, puis faire du 60 heures, puis du 70 heures. Oui, c'est important, mais passer du temps de qualité avec sa famille aussi, c'est important.
Ouais.
Aujourd'hui, la femme, elle reste pas à la maison, à rien faire, puis à s'occuper des enfants. L'homme aussi, tu sais, ça part comme moi ce que je fais. Fait que c'est pas possible de donner 70 heures à son employeur, d'être un bon père, d'être présent dans les activités avec l'enfant. C'est plus possible aujourd'hui. Il faut faire des compromis. C'est un peu moins d'heures, plus de temps avec la famille. C'est des choses à considérer là-dedans. C'est pas juste d'être. Puis à ce moment-là, c'est sûr qu'on ressent la pression. Tout le monde ressent cette pression-là.
Ouais.
D'être là pour les enfants, d'être là pour le travail, de donner son maximum à tout le monde. Puis là, à un moment donné, ben, il y en a qui tiennent pas la route parce que
vous avez fait des choix, Junior, et vous arrivez à contrôler la pression de cette façon-là. Vous en avez moins, donc.
J'arrive à le contrôler jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point, des fois, il faut que je souffre puis que je me dise, écoute, prends ton mal en patience puis repars, là. Prends une semaine de vacances puis repars. Mais en tant que tel, des fois, une semaine, 2 semaines de vacances, tu reviens puis tu retombes dans la marée, disons, puis ça repart, là, puis ça réembarque le stress, la pression, puis tu fais juste d'avoir les reins assez solides pour le contrôler.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup de votre appel, Jessica Joyal.
Mais moi, ce que je me demandais par rapport à Junior, est-ce que la pression, est-ce que ça vient de son employeur qui exige de faire 70 heures ou c'est parce qu'il manque du monde et il est obligé de faire le travail, tu sais?
Oui, Junior, et vous êtes toujours
On est en pénurie de main-d'œuvre, comme vous le dites.
Ouais.
Moi, par exemple, je suis frigoriste. Je travaille dans les systèmes de climatisation.
Ouais.
Ben, mon domaine, les bassins ouverts pour la première fois en quoi, à 30 ans à peu près.
Ouais.
Ben, écoutez, il y en a de la job, il y en a plus. Mais si je voudrais faire 100 heures par semaine, j'en ferais 100.
Ouais.
C'est sûr que les employeurs à ce moment-là nous demandent peux-tu? C'est comprenable. Puis c'est comprenable aussi notre partie qui essaye de faire le plus possible tout en donnant aussi à sa propre personne et à sa famille aussi. T'sais.
Mais ça, c'est un problème qu'on a au Québec,
merci,
Isabelle. Hein?
Ouais.
Que la Commission de la construction du Québec là, est pas branchée avec les besoins de la population. Comment ça se fait, comme les frigoristes, parce que je l'entends beaucoup, moi aussi. Là.
Ouais, les frigoristes étaient...
On rouvre pas le bassin.
Ils ont été légèrement occupés, on va le dire.
On rouvre pas le bassin, ça va faire 30 ans. Mais voyons donc. Pourquoi qu'on rouvre
pas ça? On rouvre pas le bassin, qu'est-ce que tu veux dire?
Ça veut dire que tu permets à des personnes qui sont sans emploi qui pourraient aller chercher leur carte en déposant 100 $. Les employeurs pourraient les embaucher.
Tu veux dire, il y a comme des quotas d'emploi.
Oui, ils deviendraient des apprentis.
Ouais.
Tu comprends?
Ouais, ouais.
Les employeurs, là, c'est ça qu'ils attendent. Ils voudraient embaucher des jeunes, secondaire 3, qui sont peut-être pas assujettis à aller à l'université, mais qui voudraient devenir frigoriste. Il faut que le bassin soit ouvert pour qu'ils aillent chercher leur carte pour devenir des apprentis.
Il faut que le ratio d'apprentis aussi, compagnons-apprentis, soit raisonnable. Là, ça, c'est un autre game, la construction, effectivement.
Vraiment.
Mais moi, ce qui me fascine, c'est qu'on entend de la pression, là. Il y en a ses employeurs, puis il y en a ses employés dans tous les secteurs. Ouais. C'est fascinant ce qu'on a entendu ce matin. Ouais. Là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment. Puis tu parles à des travailleurs de la santé, c'est pareil. Là. Tu parles à des travailleurs.
Ouais. On réagit pas tous de la même façon. Hein. Ouais. Ce qu'il faut voir, hein, c'est qu'on réagit pas tous de la même façon. Ce qui est une pression indue pour vous, l'est peut-être pas, l'est peut-être pas pour un autre.
Là. Mais c'est sûr, une chose est sûre, c'est qu'en conclusion, on peut peut-être donner qu'un seul conseil. Il faut apprendre à gérer l'urgence. Il y a des affaires dans la journée qui ne sont pas urgentes.
Exactement.
Il faut juste conclure ça.
Les vraies urgences.
Tes courriels, tu n'es pas obligé de les lire à la minute. Tu peux faire 3-4 fois par jour, puis tu ne vas rien manquer de la journée.
Tu n'es pas obligé d'y répondre.
Mes amis, merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve après les nouvelles. Restez là, tout le monde.